Alexis, lorsqu'on a commencé notre remplacement ensemble mercredi, on s'est donné le mandat de faire le survol un peu de toutes les équipes de la Ligue nationale avec l'action qu'on a eue au cours de l'entre-saison. Ça a été nombreux, évidemment, de tous les côtés. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dans les derniers jours, on a fait la tournée déjà de 4 équipes et on poursuit dans la section Pacifique. On est toujours loin dans l'Ouest. J'ai hâte que tu nous ramènes tranquillement vers l'Est. Tranquillement. Mais en même temps, c'est le fun aussi de savoir ce qui se passe avec les équipes de l'Ouest. On va parler aujourd'hui des Flames de Calgary et des Oilers d'Edmonton. Hugo est juste parti, il va revenir dans quelques instants. Je sais comment il avait hâte de parler des Flames. Alors on va commencer avec les Oilers, comme ça on va pouvoir parler des Flames avec Hugo ensuite. Les Oilers d'Edmonton, évidemment, ben, on garde en tête là, ces deux éliminations en finale de la Coupe Stanley depuis 2 ans.
Oui, ça commence à devenir intéressant parce que là justement on se dirige vers le haut de la division Pacifique lors du classement de la saison dernière, donc des équipes qui ont bien performé. Tu viens de le mentionner, les Oilers, bon on le sait, c'est deux participations de suite en finale, deux défaites face aux Panthers. Et ben écoute, on a été actifs cet été du côté des Oilers. J'ai eu beaucoup de mouvements, surtout en fait des joueurs qu'on a perdus, qu'on n'a pas eu les moyens de re-signer, on le sait, avec le contrat d'Evan Bouchard à 10,5 millions pour les 4 prochaines saisons.
Quand t'ajoutes déjà ceux de McDavid et Dreisaitl.
Puis celui de Darnell Nurse aussi. Donc c'est des joueurs qui commandent des gros salaires, donc évidemment ça en enlève un peu pour certains joueurs de profondeur qu'on n'a pas su garder, et je vais en faire la nomenclature justement. Evander Kane qu'on a échangé aux Canucks de Vancouver, et par la suite Victor Arvidsson, Connor Brown, Corey Perry, Jeff Skinner, John Klingberg et Derek Ryan qui ont tous quitté via le marché des joueurs autonomes. La majorité d'entre eux se sont retrouvés des nouveaux contrats, excepté Derek Ryan. Et on a
est-ce
également...
que t'arrives à savoir lequel selon toi est la plus grosse perte pour les Oilers pendant l'entre-saison? J'aurais, tu sais, Evander Kane est peut-être la réponse qui nous vient rapidement en tête, mais c'est des gars quand même de profondeur qui est important. Je pense à un Corey Perry notamment. Là,
Corey Perry, mais moi je pense que j'irais peut-être avec un Connor Brown qui a fait un travail assez honnête avec les Oilers dans les dernières années, en séries éliminatoires aussi. C'est un gars qui a quand même du chien, si je peux dire ça comme ça, qui est capable aussi d'effectuer un certain travail en infériorité numérique. Mm-hmm. Donc un joueur de rôle qu'on perd, qui va peut-être être, selon moi, une certaine perte, si on peut dire ça comme ça. Et à noter aussi la transaction qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps, avec un échange 1-1 avec le Lightning pour des espoirs. On a envoyé Sam O'Reilly en retour de Isaac Howard. Et ça, c'est une transaction que j'aime bien du côté des Oilers, en fait. Isaac Howard, c'est un joueur, un espoir que moi, j'apprécie. On sait la situation qui est arrivée, là, ne voulait pas signer un contrat avec le Lightning de Tampa Bay qu'il avait repêché. Donc, clairement, il avait mentionné là, en fait, qu'il souhaiterait retourner à l'université la saison prochaine, donc on le verra peut-être pas tout de suite dans l'uniforme des Oilers, mais lorsque le temps viendra, clairement, il aura de la place dans cet alignement-là. On voudra certainement lui donner du temps de jeu.
Et là, quand on regarde au niveau du nombre de départs, là, je compte 3, 6, 8 joueurs quand même là, qui étaient là dans la formation des Oilers qui sont partis. Ouais. Je te pose la question, qui est entré de l'autre côté? Et là, il n'y en a pas 8 qui sont entrés.
Il n'y en a pas 8 qui sont entrés. En fait, il y en a seulement 2 si j'enlève de l'équation celui qu'on vient de parler, Isaac Howard. Andrew Mangiapane qui s'est joint avec l'équipe pour un contrat de 2 ans d'une valeur annuelle de 3,6 millions. Et Curtis Lazar, lui, qui est un vétéran depuis longtemps guéri dans cette ligue, 1 an, 775 000 $. Donc, même pas sûr qu'il va jouer en tant que tel dans la formation des Oilers, puisqu'on compte déjà des gars comme Mathias Janmark, Adam Henry, Kasperi Kapanen et Trent Frederick, qu'on a lui aussi prolongé à gros contrat, 8 ans pour Frederick. Et par la suite, il y a des jeunes joueurs aussi qui vont s'amener, dont un qui m'intéresse particulièrement, Mathieu Savoie.
Exact, c'est le même pour moi aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu l'entrevue que, je pense que c'est le directeur général, en tout cas quelqu'un de l'entourage des Oilers a mentionné là, qu'on voulait lui donner un plus gros rôle cette année.
Oui, ben justement, c'est un de mes joueurs qui va être à surveiller pour moi dans cette prochaine saison pour les Oilers. Écoute, un jeune, ça aussi, qu'on a acquis, des Sabres de Buffalo, qui avec un certain potentiel également.
J'ai
aussi
l'impression que les Sabres ont peut-être démissionné vite un peu. Sur lui, on avait beaucoup d'espoir à l'attaque, alors je pense qu'il y avait un peu une congestion à l'attaque au niveau des espoirs des Sabres, parce que ça reste encore un très bon espoir, Mathieu Savoie, pas le plus gros gabarit là, mais...
Non, mais quelqu'un qui est capable aussi de faire un travail honnête et d'apporter sa part de points. Je pense qu'on voulait peut-être aller chercher un joueur plus de rôle en Ryan McLeod, et on lui a fait confiance et on a décidé de le garder dans la formation aussi, et mine de rien, il fait quand même bien. Est-ce que, comme tu dis, on a démissionné trop vite? Le temps nous le dira, mais ça serait pas la première fois du côté des Sabres où on démissionne trop vite sur un jeune joueur.
Et Matt Savoie, je pense qu'on veut lui faire une place aussi sur le désavantage numérique. C'est ce que j'arrive plus à me rappeler si c'est le directeur général des Oilers, ou en tout cas quelqu'un
ça
des Oilers
aussi,
là, parlé, mais dans les derniers jours, j'ai vu l'article sur les médias, disait qu'on voulait lui faire une place aussi sur le désavantage numérique.
Ben, c'est que cette saison, la saison passée, il jouait pour le club école justement des Oilers, donc les Condors de Bakersfield, et il avait ce rôle-là, justement, ce rôle rôle clé en infériorité numérique. Et c'est un peu le même rôle qu'on aimerait lui redonner dans le grand club avec les Oilers. Et j'ai quand même l'impression aussi qu'on va être capable de lui donner du temps sur un top 6 éventuellement, puisqu'on le sait, là, la profondeur s'est amincie beaucoup. Et à ce point-là, on va être prêt à faire de la place pour des jeunes joueurs. Et Mathieu Savoie, comme tu l'as mentionné, même si c'est pas le plus gros gabarit, c'est quand même un joueur avec un bon talent offensif. Ouais. Donc si on le jumelle avec des gars comme Leon Draisaitl, par exemple, Ryan Nugent-Hopkins, ça pourrait quand même fonctionner aussi.
Bon, l'autre joueur à surveiller avant qu'on enchaîne avec, ouais, avec les Flames, évidemment, on pourrait mettre Connor McDavid et Leon Draisaitl, ouais, si on a compris le concept, ouais, comme on dit, là. Mais si on va dans une autre direction que ces deux gars-là, il y en a un autre que tu surveilles aussi en particulier.
Ouais. Evan Bouchard à la défensive, et la raison pour laquelle j'ai inscrit ce nom-là, c'est qu'il vient tout juste justement de signer son long contrat. Donc, est-ce que il va être capable de poursuivre sur sa production offensive, ou ça va être le genre de joueur qui maintenant, qu'il a son contrat en main, va peut-être s'asseoir dessus? C'est pas ce que je dis qui va arriver, mais je trouve ça intéressant de le surveiller quand même, parce que c'est déjà arrivé par le passé qu'on a vu ça. Et on le sait, Evan Bouchard, c'est un joueur qui, oui, fait beaucoup de points, mais c'est très difficile dans sa propre zone. Donc, est-ce que il va être capable d'améliorer cette facette de son jeu? Ça va rester à voir, mais moi, je le surveille cette saison justement pour cette raison-là. Et c'est plus difficile encore cette année à ce niveau-là, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que vous auriez payé ce salaire-là pour Evan Bouchard?
Mais en fait, moi, qu'est-ce qui me saute aux yeux? Et d'ailleurs, on l'avait entendu aussi sur le podcast Spillin Chicklets. Quand Noah Dobson a signé son 9.5 avec, ouais, les Canadiens, les gars, là, Ryan Whitney, qui est un ancien joueur des Oilers, toujours les Oilers dans son cœur, ouais, a dit que ça allait être une formalité de 10.5 le 11 à Evan Bouchard. Ouais. Moi, je trouve que il y a pas une très grande distanciation entre Dobson et Bouchard. Les gens vont tendance à préconiser Bouchard parce que à cause du temps de jeu, l'utilisation en série, le rôle qu'il a apporté aux Oilers. Mais je suis d'accord avec toi, comme quoi la prise de décision par moment peut être un peu difficile. Je comprends que tu amènes un aspect robustesse, c'est quand même un gros grand gars, bloque beaucoup de lancers aussi, mais il y a certaines choses au niveau de la prise de décision qui a travaillé. Pour ce qui est du 10.5, je pense que c'est dans les standards des défenseurs élites présentement dans la Ligue nationale, ouais, avec le cap qui augmente. Mais selon moi, c'est un peu trop d'argent pour Evan Bouchard. Mais encore une fois, si tu regardes la ligne bleue des Oilers d'Edmonton, c'est clairement le gars avec qui tu veux aller le plus loin. Donc, t'as pas le choix de payer le prix.
Mais Alexis, je veux t'amener sur les Flames parce que le temps file quand même. Ouais. Je veux qu'on ait parlé des Flames de Calgary aussi, qui sont là aussi une équipe très intrigante à surveiller pour la prochaine saison. Là.
Ouais, par contre, très peu de mouvements cet été pour les Flames de Calgary. Donc ceux qui ont moins suivi n'ont pas manqué grand-chose. la seule signature qu'on a fait, c'est le gardien de but Ivan Prosvetov qui s'amène avec l'équipe pour un an.
Et même ça, là, c'est l'ancien des Flyers, ça, il me semble.
Ivan Prosvetov, je veux qu'il Coyotes.
Ouais, c'est ça, c'est pas le même, celui-là. Golden Knights. C'en était un autre, ouais, le gardien des Flyers qui s'est amené de la Russie.
Tu sais, pour Prosvetov, c'est même pas sûr nécessairement non plus qu'il va être l'adjoint de Dawson Wolf, puisqu'on a Devin Cooley aussi qui pourrait occuper ce rôle-là. Donc clairement, il aura une petite bataille peut-être au camp d'entraînement de l'équipe. Et pour ce qui est des départs, ben on a perdu Anthony Mantha, qui lui a signé un contrat avec les Pingouins. Dan Vladar, qui était justement l'adjoint de Dawson Wolf la saison passée, prend la direction de Philadelphie. Puis Kevin Rooney, qui lui est toujours sans contrat sur le marché des joueurs autonomes. Pour les Flames de Calgary, on a terminé au 4e rang de la division l'année passée. Et puis là, c'est vrai, on a sauté cette partie-là, mais les Oilers, qui avaient terminé au 3e rang, évidemment, on le sait. Mm-hmm. C'est le rang, d'ailleurs, que je les projette encore la saison prochaine. Pour ce qui est des Flames, bon, c'est ça, on a terminé au 4e rang. On était très prêts de faire les séries. On avait le même nombre de points que les Blues. On avait seulement moins de victoires qu'eux. Mm-hmm. Ça s'est joué vraiment à la toute fin, cette course aux séries. Et on s'entend que la grande raison pour ça, c'est Dawson Wolf, justement, qui a terminé au 2e rang du scrutin pour les votes chez le trophée Calder. Donc, c'est quand même pas rien. Toutefois, ce qui a retenu plus l'attention cet été, c'est vraiment les nouveaux contrats qu'on a décidé d'octroyer. On a identifié des morceaux qu'on a décidé de garder en place comme étant notre noyau. Je pense à des gars comme Matt Coronato, qui a signé pour 7 ans 6,5 millions de dollars. Kevin Ball en défensive aussi, 6 ans 5,35 millions de dollars. Celle-là, je le trouve peut-être un petit peu cher payé.
Mm-hmm. Un joueur, très grand défenseur.
Ouais. Grand défenseur qui est peut-être plus meilleur dans sa propre zone qu'en termes d'offensive. C'est pas nécessairement un marché marchand de points, mais tout de même un joueur qui fait un travail honnête en défensive. Morgan Frost, qui a également prolongé pour 2 saisons avec l'équipe, et Adam Klapka, lui qui s'est amené avec l'équipe en plus en fin de deuxième moitié de saison, puis qui a quand même pas mal fait non plus, un joueur de grand gabarit, là, 6 pieds 8 quand même, avec 235 livres, donc un gros bonhomme. Donc écoutez, moi pour les Flames, la différence que je vois peut-être avec cette saison, et c'est pourquoi je les mets 5e au classement plutôt que 4e, parce qu'il faut faire de la place pour les Ducks, évidemment.
Ouais, t'as monté les Ducks, alors. Mais comme tu le disais, les Flames sont passés pas loin l'an dernier des éliminatoires. Là, cette année, est-ce qu'on va réussir à refaire cette chose-là aussi? C'est une équipe un peu énigmatique.
Exact.
On a de la difficulté à avoir une bonne lecture. Là. Ils ont de beaux espoirs qui s'en viennent, Hugo, pour les Flames dans les prochaines années.
T'avais hâte d'en parler, Hugo, donc justement, je peux te laisser aller.
Les Flames, écoute, il faut quand même noter le draft de cette année. Cole Reschny est un excellent joueur qui a joué à Victoria, qui s'en va dans la NCAA l'année prochaine. Là, je pense, l'école méchante, mais je crois que c'est North Dakota. Et on a Callum Potter qui joue pour le développement américain, là, qui lui aussi est un joueur très, très, très élite au niveau des mains, de l'intelligence, de la vision. Ça va être intéressant de voir où on s'en va avec ça. Mais pour ce qui est des Flames de Calgary,
il y en a un en particulier en défense.
Oui, exactement. Zane Parrott, qui était probablement le meilleur défenseur au Canada l'année dernière, mais qui n'était pas assez bon pour faire l'équipe U20. On s'en reparlera.
Ouais.
Mais,
je pense que j'avais plus Sam Dickinson encore que Zane Parrott, mais en tout cas, ça se débat.
Oui, ça se débat. Mais je parle peut-être un peu plus au niveau offensif.
Au niveau offensif, oui.
Et Zane Parrott, qui va clairement prendre beaucoup, beaucoup de galons rapidement au sein des Flames de Calgary. Ça va être intéressant de voir ça, ce développement de ces jeunes joueurs-là. On sait que la mentalité de l'Ouest, du gros gars qui frappe, qui bloque des lancers, quand même assez présente à Calgary, une mentalité un peu différente de celle des Oilers. J'ai hâte de voir le développement de ces joueurs-là parce que justement on est dans une situation où on peut se permettre d'être d'être patient. T'sais, on a des Matvei Gridin qui s'en vient aussi, des Jacob Battaglia, des gars qu'on a repêchés qui ont différents styles, différentes identités, mais qui peuvent tous apporter quelque chose d'intéressant, et Andrew Bashaw aussi à surveiller.
On s'entend que c'est assez mince justement défensif du côté des Flames, et du côté droit, ben on sait Rasmus Anderson qui est dans plusieurs rumeurs de transactions depuis un bon bout de temps déjà. Donc si jamais on décide de l'échanger, eh bien là, rendu là, les seuls vétérans en tant que tels qui restent à cette ligne bleue-là, c'est Mackenzie Weegar et Kevin Ball, donc j'ai mentionné. Les autres, c'est plus des vétérans aguerris, mm-hmm, ou des jeunes, des gars comme Joel Henley, Jake Bean, Braden Pahal. Et là, bon, justement, si jamais Anderson doit changer d'adresse, ou même s'il ne le fait pas, en fait, je suis absolument convaincu que Zane Parrott aura toutes les chances au monde de se faire valoir au camp d'entraînement, puis de mériter son poste. Et si c'est le cas, ben ça va être clairement l'une des pièces à surveiller.
Si les Flames veulent avoir du succès, il va surtout falloir que Dustin Wolfe soit encore excellent devant le filet.
Ça va être la clé.
Ça va être le point d'emphase, assurément. Merci beaucoup pour cette chronique, Alexis. On va poursuivre le tour d'horizon la semaine prochaine. Il nous reste quoi? Deux équipes dans la Pacifique.
Ça va vite.
On va s'en aller dans la centrale. Ben oui, ça va vite.
Ça va vite.
Ça passe vite. Ça n'a pas de sens.